Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans plat. Merci d'être avec nous et puis merci de nous écouter. Si vous êtes à table, bon appétit. Manuel Mariani est avec nous. Welcome back, Manu.
Bonjour Philippe et bonne année parce que c'est notre première de 2022.
De cette année, vous vous rendez
compte. Dites donc.
Ouais, c'est vrai. Et heureusement que j'ai réclamé mon émission sur la galette hein, parce que sinon on se voyait que la semaine prochaine.
Bah, on a été long au démarrage, mais on démarre avec la baguette. Moi, je trouve que c'est pas mal.
La galette.
Ça a de la gueule, comme dirait l'autre.
Ouais, c'est ça, la galette des rois. De toute façon, on a tout un mois pour en manger. Hein. Janvier, c'est le mois de la galette.
Oui, de la crème. Enfin bon, c'est la totale quoi. Janvier, c'est du sucre, du sucre, du sucre. Amis diabétiques, si vous nous écoutez.
Ouais. Allez, à l'invité aujourd'hui, Manu.
Eh oui, nous sommes aujourd'hui pour la galette. Alors, bon, on a envie de le secouer un peu parce que c'était en 2012, hein, je crois. Il était meilleure galette d'Île-de-France. Et cette année, quatrième seulement. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Pour nous, c'est très bien.
Non, c'est vachement bien, quatrième. Alors, ben, c'était. Ouais.
Dites-vous que les 10 premiers de la galette, c'est déjà très très bien.
Ouais, on est dans le top.
Il y a, cette année, il y avait 125 ou 130 participants. C'est pas les plus mauvais. Donc, quand tu es régulièrement dans les 10 premiers, l'année dernière, le gagnant était 8e. L'année prochaine, ce sera peut-être un des 10 premiers. Ça se tient à un peu de choses, en fait.
Bon, mais c'est un vrai concours. C'est pas un truc commercial. Il faut expliquer aux gens. Quelles sont les difficultés de participer à ce genre de concours?
C'est très commercial. C'est pourquoi on se concourt, déjà, parce qu'on adore notre boulot et puis ça nous met un petit challenge. Mais à Paris, il y a deux concours. Il y a le concours de la galette et la baguette.
Ah, c'est ça, voilà. C'est les deux gros trucs.
On se défonce toute l'année, mais s'il y a deux concours que tout le monde veut gagner, c'est ces deux-là, en fait.
Mais pourquoi est-ce que c'est difficile comme concours?
C'est difficile parce que c'est hyper technique.
Bah, la galette des rois, c'est difficile. Une bonne galette, c'est difficile.
Pour avoir participé au jury il y a 2 ans, je peux vous assurer que les 10 premiers, souvent, il n'y a pas grand-chose. Ça va se jouer sur le jury, en fait.
Et quand on gagne une année, après, on est dans le jury, souvent, c'est ça?
Pas forcément.
Non.
Après, comme nous, on était sans activité pendant 2 ans, j'ai participé au jury. Ce qui était très intéressant parce que beaucoup de boulangers, ouais, je ne fais pas le concours, de toute façon, c'est truqué. Ouais, c'est facile, c'est mieux. C'est plus facile de ne pas le faire en disant que c'est truqué que
c'est clair.
Donc, va te confronter à tes collègues et puis. Mais c'est un super. Nous, ça nous motive. Et c'est un vrai stress.
Oui.
Pour moi, je le prends comme un vrai stress.
On vous a présenté comme un dealer de galettes, mais on n'a pas dit votre nom. On est avec Stéphane Louvard. Stéphane Louvard, donc la Maison Louvard, qui est une boulangerie, pâtisserie.
Ouais.
Mais aussi un restaurant, ça c'est la nouveauté quand même. Hein.
Ouais, parce qu'on avait une boulangerie, enfin, depuis toujours on était boulanger, traiteur, et comme on voulait
se compliquer. Quand vous dites c'est
ma femme et moi.
Voilà, c'est parce que vous êtes un couple qui travaille ensemble.
Ouais, depuis toujours.
Voilà, avec Virginie, hein, quand même, on la cite.
Voilà.
Vu que c'est elle qui tient la maison en l'absence de, du boulanger.
Et on voulait se compliquer un peu la vie, donc on s'est dit, allez, on va faire un restaurant avec. Et en fait, ce qui nous a fait pousser à faire ça, c'est qu'en boulangerie, on a beaucoup de main-d'œuvre. Et sur notre ancienne affaire, on avait aussi 2 cuisiniers. Et on faisait tous les jours des plats du jour, cuisiner des produits frais, et on vendait
oui,
ça.
Beaucoup de boulangers sont de plus en plus traiteurs, un peu.
Ouais, mais en fait, on travaille quand même beaucoup de produits frais de qualité. Et pour vendre ça, entre 6 et 8 euros, en fait. Et bon, souvent, on se disait, allez. On se fait un dernier petit challenge et on se trouve une adresse où on peut faire la boulangerie artisanale. Alors, on a poussé un peu le process en boulangerie, c'est que maintenant, on travaille que sur des farines bio. Et on a vraiment monté en gamme en boulangerie par rapport à nos anciennes affaires. Et à côté de ça, on a une vraie brasserie, restaurant, où on fait une cuisine bistronomique.
Donc, haute gamme, mais vertueux.
Voilà. Ouais. Donc, du coup, avec un peu de rapport sur le pain, la boulangerie, voilà.
Mais c'est quoi le rapport?
Déjà, tout ce que vous mangez chez nous est fait sur place. Il n'y a rien qui vient d'extérieur.
Il ne faut pas une cuisine qui fait manger du pain.
On essaye.
Ouais,
mais voilà.
Ouais.
Quand je fais.
Oui, non, mais c'est très important ce que vient de dire.
Quand je fais un œuf morette, je pétris un pain au Beaujolais exprès pour servir avec l'œuf morette. Quand c'est faisable, on le fait. On ne va pas insister pour forcément mettre du pain dans une assiette, c'est débile. Mais s'il y a une relation, là on a fait un burger pour le soir, on l'a fait avec du petit épeautre bio, quoi. Donc c'est un truc, voilà, il n'y a pas ailleurs. On se fait plaisir, on s'amuse. Il ne faut pas que ce soit un impératif que le pain soit tout le temps dans l'assiette. Mais j'ai Gaëtan, mon cuisinier, qui est un peu normand comme nous, et on aime bien de temps en temps trouver des accords comme ça, c'est sympa.
Oui, notre invité, il y a un truc qui est super important. C'est qu'il parlait effectivement de faire ses propres pâtisseries viennoises, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, chez les boulangers, il y a, on approche des 80%. Hein. 80% des boulangers ne font pas leur viennoiserie. C'est-à-dire qu'ils achètent des viennoiseries surgelées et ils se contentent de les cuire.
Malheureusement, les chiffres...
Vous parliez de main-d'œuvre. C'est vrai que c'est beaucoup de main-d'œuvre, la boulangerie.
Mais en fait, ce qui coûte cher en boulangerie, ce n'est pas la matière première. En ce moment, il y a beaucoup de débats sur le prix du beurre, sur le prix du blé.
Bah, de la baguette même en ce moment, la baguette de Leclerc. Hein.
Ouais, la baguette de Leclerc.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, ça, d'ailleurs?
Oui, mais attendez, parce que Manu, sur le beurre, parce que sur le beurre, ça concerne directement la galette. Vous avez choisi de ne pas répercuter l'augmentation du prix du beurre sur le prix de votre galette. En gros, le beurre, pour vous, c'est combien d'augmentation les 6 derniers mois?
30%.
C'est beaucoup.
Mais c'est pas que le beurre. C'est la farine qui va prendre 10 balles du quintal. C'est le sucre qui prend un petit peu, les œufs, les produits laitiers en général. Il n'y a pas l'électricité qui va exploser. C'est les loyers. J'ai un gentil propriétaire qui est très sympa, mais il va pas baisser mon loyer non plus. Donc voilà, nous on a choisi de pas augmenter la galette parce que déjà on est sur une création et c'est pas facile avec le Covid. Et puis de toute façon on n'a jamais vendu cher. Donc je trouve que 6 personnes, 24 euros, on gagne.
Ouais, chez vous la galette c'est 4 euros la part en gros quoi.
Ouais, voilà. Quand je vois des galettes à 5, 6 euros la part, stop. Hein, c'est bon, c'est pour moi c'est trop cher. Donc chacun son truc. Pour moi, voilà. Et ce qui coûte le plus cher dans la galette, c'est pas la matière première, c'est la main-d'œuvre. Donc, c'est. Tout augmente. Maintenant, on peut vendre hein, 6 euros. Je sais pas. S'ils les vendent, tant mieux. C'est compliqué.
La question, c'est surtout est-ce qu'elles sont bonnes, quoi. C'est vrai que la qualité globale, enfin, nous, on parle en tant que client, hein, mais la qualité globale des galettes à baisser. Je parle des boulangers de quartier, etc. Maintenant, pour acheter une galette, on se déplace. On va chez un boulanger particulier parce que il est réputé pour sa galette ou pour son feuilletage, etc.
Ouais, le problème de la galette... Alors, il y en a des super bonnes à Paris. Hein, Paris, région parisienne, franchement, il y en a des super bonnes.
Vrai, alors, on a la chance d'être bien lotis.
Pour beaucoup, la galette, ça vient après les fêtes. C'est un bout de feuilletage avec de la crème d'amande. C'est vendu cher, ça coûte pas grand-chose. Puis voilà, quoi, c'est un peu le 13e mois.
Ouais, enfin, ça coûte pas grand-chose. L'amande, non, ça a grimpé aussi. Enfin, hein.
Ça reste un des produits où les boulangers, on a une marge correcte.
Oui, vous le payez pas. Oui, nous on le paye peut-être plus cher au supermarché. Là.
Souvent, les gens nous disent, les galettes, c'est vendu trop cher. Oui, on peut le concevoir. Mais quand vous allez voir votre boulanger et que vous lui demandez un gâteau d'anniversaire où on va passer 6 heures pour vendre un gâteau à 30 balles, vous demandez pas si c'est cher. C'est un équilibre. Dans l'année, il y a des produits où on va gagner plus. La galette en fait partie. Et t'as des moments de l'année où tu fais des produits, tu sais que tu gagnes rien. Donc c'est un équilibre. Hein. Les bilans de boulangerie, ils n'ont jamais été aussi merdiques qu'en ce moment. Tout augmente, les prix n'augmentent pas, il y a des liquidations en permanence. Faut pas croire que la boulangerie est dans des années de gloire. C'est compliqué pour tout le monde. Alors, la galette, elle était vendue le même prix il y a 10 ans. Et tout a augmenté. La baguette, aujourd'hui, si on avait suivi le cours de l'évolution comme c'était fait à l'époque où le prix du pain était bloqué... Parce que le prix du pain a été libéré dans les années 60.
Ouais,
j'ai jamais retenu.
Non,
la date.
60, c'est Giscard, ouais. Donc
ouais,
ça,
j'étais pas dans le circuit.
C'est après 74, en tout cas.
Après 74.
Aujourd'hui, la baguette sera à 2 euros et des bananes.
Ouais.
Donc, vous voyez, ça n'a jamais suivi l'évolution de la vie. Alors, on n'est pas des pleurnichards, on se lève le matin, on fait notre boulot.
Vous faites un boulot dur quand même. On n'a pas des horaires.
Non, mais bon, c'est.
Quand on a un ami boulanger, c'est dur de l'inviter à dîner à la maison, quoi, en gros.
Ça dépend, il faut choisir son créneau, ça c'est clair.
Mais est-ce que les grands rendez-vous de l'année, que sont la galette, la bûche, etc., est-ce que ces grands rendez-vous de l'année, c'est une nécessité commerciale pour les boulangers aujourd'hui, ou est-ce que c'est juste un bonus hein?
Ça dépend les quartiers, ça dépend si vous avez des... Si vous avez des boulangeries ou s'ils loupent Noël, ils sont mal pendant 6 mois.
Ouais.
Ça dépend. Franchement, nous à Noël, on n'a pas fait grand chose. Ce ne sera pas un quartier où on fera pas. Un quartier de bureau où tu ne travailles pas forcément à Noël.
Oui, c'est vrai.
Mais pour nous, un mois, le meilleur mois de l'année, c'est un mois de juillet, un mois de juin, un mois de mars, un mois normal où on vend tout normalement. Quoi.
D'accord. Même juillet.
Non, pas juillet, juin, mars,
ouais,
juillet.
Printemps et début de l'été, oui.
Après, Noël, on était sur une affaire avant, Miroménil, où à Noël, je faisais pas de bûche.
Oui, parce qu'à la base, vous étiez donc rue de Miroménil. Ouais. Et donc, aujourd'hui, maintenant, vous êtes rue de Châteaudun, dans le 9e.
Voilà.
À South Pigalle, comme disent les Jones.
Ouais. Et voilà, c'est un mois de l'année où tout fonctionne bien, où tu vends ta viennoiserie, tu fais... C'est bien, quoi.
Alors, on parlait du concours de la galette tout à l'heure que vous avez remporté en 2012. Pour avoir une idée de l'impact que ça a chez un boulanger, hein, vous en avez vendu combien de galettes en 2012?
En 2012, avant de faire le concours, on vendait 1400, 1500 galettes.
Par saison, ouais, sur la saison,
sur le mois de janvier, ouais.
D'accord.
Quand on a gagné le concours, on a passé à 3004, 3005. Donc, avec. En fait, à l'époque, le concours, c'était le 4 ou 5 janvier. Donc, tu avais 2 ou 3 petits articles dans le Parisien et tu doublais, en fait, tu doublais tes reproductions. Mmh. Et sur l'année 2013, bah, j'ai suivi les conseils d'un copain qui dit ouais, « Sors un peu de ton fournil et fais un peu de communication. » Et du coup, on a pris une attachée de presse avec qui on travaille toujours. Et là, on a vraiment eu une belle com et on est passé de 3000 à 10 000.
Ah, 10 000
galettes.
Si
ouais,
si tu prends avant concours et vraiment avec la com, alors on a eu aussi la chance d'être dans le 8e, dans un gros quartier de bureaux où on a eu BFM Business, on a eu le 13h de Pernod, on a eu. C'était colossal.
Ce qui veut dire que les gens achètent le label meilleure galette de l'année.
Clairement, ouais. Clairement. Et après, tu retombes. Après, il y en a un autre qui est meilleur que toi. Tu n'étais plus dans le jeu, quoi. Donc.
Ouais, parce que autant quand on est la meilleure baguette, on en parlait avec Mahmoud Mcedi qui avait gagné il y a quelques années. Quand c'est la meilleure baguette, on traverse pas Paris pour acheter une baguette.
Non, par contre.
Mais la galette, on se déplace. Donc c'est vrai qu'il y a un impact, je pense, j'imagine.
On a des clients, ils viennent de Cergy Pontoise, ils viennent de partout. Pour la galette, tu te déplaces. Il y a pas de. Après, on a fait vivre le truc. On maintenait entre 5 et 6 000 galettes, ce qui est déjà super bien. Hein,
Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la galette que vous faites, c'est la même qu'en 2012 même. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est celle qui a été numéro 1.
Alors, c'est marrant parce qu'il y a des recettes que j'aime bien, des fois, essayer d'améliorer, essayer de. La galette, je suis calé sur mon truc. Et avant que je modifie quelque chose, je pense qu'il faudra vraiment que je trouve quelque chose.
Et cette recette, elle vient d'où? Alors, c'est une recette classique, c'est le.
Alors, déjà, moi, je suis. Boulanger, pâtissier, un peu cuisinier, un peu tout, mais ce que je préfère, c'est le tour. En boulangerie, vous avez
un poste. Alors expliquons le tour, ce que c'est. Ouais,
le poste du tourier, en fait, c'est celui qui fait toute la viennoiserie, et tous les feuilletages, toutes les pâtes fermes, toutes les pâtes levées, feuilletées. Et pourquoi c'est souvent le patron qui le fait, c'est que c'est très compliqué de trouver un tourier. Et trouver un
bon. Oui, puis c'est aussi ça qui fait la réputation d'une boulangerie, quoi.
Oui, c'est vrai que quand tu rentres et que tu vois une viennoiserie pas terrible, et moi j'aime ça en plus. Alors sur notre ancienne affaire, j'avais un tourier que j'avais formé, Cyril, qui était super bien. Donc il m'aidait pas mal. Mais sur celle-là, c'est encore moi qui fais tout le tour. Mais après, c'est très technique et c'est très répétitif. Ça devient vite beaucoup. C'est pour ça que les mecs font pas souvent, ils arrêtent parce que ça devient un peu chiant. Faut vraiment aimer ça, quoi.
C'est quoi les horaires d'un boulanger aujourd'hui? Parce que parfois, on a l'impression qu'avec la technologie, tout ça, le boulanger, il a plus besoin de se lever.
Il a gagné 2 heures, oui.
Il a gagné 2 heures, mais en fait, on a l'impression que pas du tout, quoi.
Bah, je vous dirais que plus tu travailles à l'ancienne, moins tu as besoin d'être là tôt la nuit, quoi.
Ouais.
Nous, on travaille sur des fermentations longues, on pétrit la veille. Donc moi, j'ai mon petit Madou qui arrive à 4h30 le matin, 5h, et on ouvre à 7h, mais ça suffit. Parce qu'on travaille sur des pâtes qui ne sont pas pétries le jour même. Et si tu travailles sur un pain blanc où tu vas vite, où tu pétris pour à l'ouverture, ouais, il faut être là à 2h du matin. Mmh. Et on en a de moins en moins. Ça. Donc maintenant, c'est plus un travail de journée, la boulangerie.
Ah, c'est ça qui a changé, en fait.
Ouais. Mmh. Mais en fait, c'est qualitatif. Parce qu'on retravaille un peu à l'ancienne.
Oui, puis avant, on achetait son pain le matin pour toute la journée. Alors qu'aujourd'hui, on peut l'acheter en fin d'après-midi pour le soir, c'est plutôt souvent le cas, d'ailleurs.
Ouais, bah, de toute façon, on cuit toute la journée. Donc.
Oui, c'est ça, en fait. En fait, il y a combien de fournées dans une journée
On cuit à l'ouverture, souvent au milieu de matinée, le midi, puis le soir. Hein.
Donc, à la sortie, parce que les gens veulent encore du pain frais.
Mais c'est pas ça, c'est que le Parisien, si la baguette, elle n'est pas chaude, elle n'est pas fraîche. très compliqué. Ouais. Donc, ouais. Moi, j'ai vu remplacer des baguettes un peu froides pour mettre des chaudes, parce que si elle n'est pas un peu tiède, pour eux, elle n'est pas fraîche.
Allez, on parle de la galette aujourd'hui. On a tout le mois de janvier pour en manger. Si vous avez des questions à poser, eh bien, vous êtes les bienvenus au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Alors, on parle de la galette des rois ce matin, Manu, avec notre invité.
Absolument. Avec notre invité Stéphane Louvard, qui est pâtissier, boulanger, mais aussi restaurateur, hein, depuis voilà. peu. Hein, il a, parce que bon, il n'avait pas assez de problèmes comme ça, donc il s'est dit, je vais en plus faire de la restauration.
Surtout l'année du Covid.
Ça, vous ne seriez pas un petit peu masochiste, M. Louvard?
L'année du Covid, c'est l'idée du siècle.
Hein, ça, oui,
oui. On ne l'a pas choisi.
Voilà, bon, la maison Louvard, 11 rue Châteaudun, dans le 9e. Vous avez déjà remporté le prix de la meilleure galette d'Île-de-France, hein, c'est pas de Paris, mais c'est même d'Île-de-France, donc ça fait quand même un beau territoire. Et puis cette année, vous êtes arrivé 4e, ce qui est déjà vachement bien. Gros boulot la galette, parce que c'est vrai que souvent, quand on achète des galettes chez le boulanger de quartier, souvent elle est pas très très bonne, quoi.
Ouais, il y a tout, quoi. C'est un deal-off. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des bons et des moins bons. C'est au client de juger. Après, j'ai pas moi qui vais dire mon collègue, la galette, elle est pas bonne.
Alors, okay. On en parlait pendant la pause. On se déplace pour la galette, quoi.
Ouais, par contre, c'est un vrai produit où
pour
les gens.
Pour sa baguette, on traverse pas Paris, mais pour une bonne galette, on traverse Paris, quoi.
Oui, clairement. Ouais, c'est un produit où tu prends ta voiture ou tu prends le métro pour aller l'acheter. Ça, c'est
sûr. Non, moi, pour le pain, je me déplace, Manu. Oui, une fois par semaine, j'y vais. Une fois par semaine. Mais je vais chercher mon pain dans un endroit qui vaut le coup.
Mais vous prenez pas des baguettes?
Si, je prends la baguette.
Mais la baguette, vous la gardez une semaine, Philippe?
Mais non, je ne la garde pas une semaine. Je la mange ce jour-là.
Ah, vous mangez du pain
voilà,
une
fois par semaine, je mange la baguette parce que c'est une bonne baguette.
Bon, alors Philippe Robichon ne mange du pain qu'une fois par semaine.
Voilà, exactement.
Si vous voulez l'aider, vous pouvez envoyer vos dons à Beurre FM.
C'est un mauvais client pour nous.
Qu'il est bête. Bon, Stéphane, qu'est-ce que c'est qu'une bonne galette des rois pour vous?
Ah, pour moi, une bonne galette, c'est déjà un bon feuilletage.
Ouais, c'est la base, quoi.
Faire une bonne frangipane, bon.
Ah oui, alors d'ailleurs, ouais. Justement, crème d'amande ou frangipane?
Ah, moi, je suis frangipane. Il n'y a même pas de discussion.
C'est pas la même chose?
Ah mais non, c'est pas pareil, Philippe.
En fait, la base de la recette est la même. Sauf la frangipane, on va lui rajouter un pourcentage de crème pâtissière. Faut pas en mettre trop, faut bien la juger.
Ouais, c'est un tiers, deux tiers, hein, c'est ça à peu près. Hein.
Non, on met moins que ça.
Vous mettez moins que ça, ouais.
Mais en gros, dans le temps, les anciens disaient, on met de la crème pâtissière parce que ça coûte pas cher. Et ça diminuait le prix de revient de la crème d'amande.
Ah oui, évidemment.
Mais c'est pas que ça, c'est que pour moi, enfin, après, c'est vraiment je l'aime comme ça. Et certains de nos confrères me diront, il met de la frangipane parce qu'il veut pas payer la crème d'amande. C'est pas ça. C'est que pour moi, je la trouve meilleure, je la trouve plus fondante.
Ouais, la crème d'amande, c'est un peu moelleux,
un peu plus sec, c'est un peu plus lourd. Et quand tu mets une bonne, enfin, faut pas en mettre trop de la crème pâtissière. Hein. C'est un équilibre. Et après, c'est le feuilletage. Hein. C'est la recette de feuilletage inversé. Moi, le feuilletage inversé, j'aime pas.
Alors, le feuilletage inversé, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, donc c'est un feuilletage qui est plus facile à faire.
Ah, c'est pas plus facile, c'est.
C'est plus rapide, quoi. Bon, il y a pas, enfin, je veux dire, parce que c'est un vrai feuilletage, faut faire des tours.
Mais il faut faire les mêmes tours dans le feuilletage inversé. En fait, vous connaissez rien. Un feuilletage traditionnel, on prend une pâte, on lui incorpore du beurre dans la pâte, on lui met des tours. Le feuilletage inversé, c'est le contraire. On prend le beurre, on le pétrit avec un petit peu de farine et on incorpore la pâte dans le beurre. Mmh. On inverse le début. En fait, on inverse. Au lieu d'avoir le beurre dans la pâte, on a la pâte dans le beurre. Moi, ce que je reproche au feuilletage inversé, c'est pour moi, hein, c'est un avis personnel. C'est quand je mange la galette au feuilletage inversé, j'ai l'impression de ressentir le goût de farine qu'on a dans le beurre au départ.
Ouais. C'est en fait, on sent le gluten.
Farine, tu pétris ton beurre avec un peu de farine. Alors, souvent, elles sont un petit peu plus belles pour les concours. Souvent, les mecs font un feuilletage inversé parce que d'aspect, c'est un petit peu plus joli. Mais quand je la mange, je m'y retrouve pas. Donc, je préfère prendre un feuilletage classique. Qui est beaucoup plus compliqué à avoir joli, parce que souvent il bouge. En fait, l'avantage de l'inverser, c'est qu'au four, elles vont rester plus facilement rondes. Il est plus régulier.
Ça gonfle de façon
un feuilletage classique, si tu respectes pas bien les temps de repos, tu vas trop vite, t'as une galette ovale en fait. Amener une galette bien ronde avec un feuilletage classique, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec un feuilletage inversé. Par contre, la dégustation avec un feuilletage classique, bah, c'est fondant, tu ressens pas le goût de farine, c'est personnel. Je sais pas.
Alors, une question, parce que c'est vrai que là, on est en plein dans la période de la galette, hein. On est au bon moment, là. Mais, tout le reste de l'année, on trouve des pitiviers. Alors, quelle différence y a-t-il entre une galette des rois et un pitivier?
Bah, le pitivier, il s'achète à Pitivier. C'est leur spécialité. Moi, j'avais un copain qui était installé à Pitivier. Il faisait du pitivier toute l'année. C'est leur spécialité. Moi, j'ai jamais, ça fait 35 ans que je suis boulanger. J'ai dû en faire un dans ma vie. Et le premier que j'ai fait, c'était au CFA, en apprentissage.
Mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est exactement la même chose que la galette des rois?
Après, pitivier, vous me commandez un pitivier au mois de juin, je vais vous le faire. Vous me commandez une galette, je vous la ferai pas parce que, voilà. Pour moi, ça se fait pas. La galette, c'est 2 janvier, 30 janvier. Basta. Et on m'en demande toute l'année, hein. J'en fais pas. Et le pitivier, c'est un feuilletage, c'est plus épais. Prendre un feuilletage plus épais, et c'est une crème d'amande, c'est beaucoup plus épais en fait. C'est vraiment un gâteau. Okay. Et après, la forme est pas tout à fait la même.
C'est un peu étouffe chrétien le pitivier d'ailleurs.
Hein. Ouais, c'est épais, c'est lourd. Mm. Mais c'est pas mauvais. On peut pas dire
j'adore ça le pitivier.
C'est une spécialité régionale.
Quand c'est bien fait, c'est bon.
Voilà, c'est un produit régional quand c'est bien fait, c'est super bon et c'est joli en plus que ça a une forme un peu de fleur. Différent de la galette, quoi. Il y a un rayage spécial, il y a une découpe spéciale.
Pour les auditeurs qui ne sont pas à l'aise avec la géographie, Pitivier, c'est près d'Orléans, dans le Loiret, on y mange du Pitivier.
Voilà.
À Pitivier.
Moi, le Queen Amman, je le mange quand je suis en Bretagne, je ne le mange pas à Paris.
Bah, Quiberon chez Riguidel.
Voilà.
C'est mieux. Enfin, bon, après.
Ouais, enfin, faut faire un test de glycémie après avoir mangé un Queen Amman, hein, parce que.
Ouais.
Un shoot de sucre là.
Ce jour-là, tu oublies. Tu en manges un par an là aussi.
Voilà, et après, on mange pas de sucre pendant un mois. Ouais,
après, quand tu tombes sur un bon, c'est un vrai bonheur.
C'est vrai que c'est bon le Queen Amman. Ouais.
Alors, revenons à la galette. Vous êtes un tradi de la galette.
Ouais.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ne faites pas?
Ben, toutes. Moi, je fais que la frangipane.
Un modèle.
Je fais pas de pistache, je fais pas de rhubarbe, je fais pas de chocolat, je fais pas de. Ça me saoule. Franchement, c'est. Je les aime pas en fait. Donc j'en ai fait. Avant, on faisait des chocolats.
On en trouve au chocolat, ouais, c'est ça. À la pomme, au chocolat.
Ouais, cette année, on a fait quelques pommes, c'est les dernières.
C'est fini.
C'est frangipane. Et en fait, je préfère passer mon temps vraiment à. C'est vraiment beaucoup de boulot. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais la galette, c'est. On a l'impression que c'est deux bouts de feuilletage avec une crème d'amande.
Ouais. Non, c'est plus compliqué.
Entre le moment où je pétris le feuilletage et le moment où on va la vendre, c'est minimum 3 jours.
Non, mais c'est ce que vous expliquez, c'est que finalement, on fait pas une galette pour la journée, déjà.
Non, si là, je lance mon pétrin en arrivant, il y a mon petit Mehdi qui m'attend, je dis, mine-toi, lance-moi un peu de feuilletage, c'est 3 jours avant de la mettre en vente, hein, minimum. Donc, je préfère faire une bonne frangipane, puis voilà, s'ils veulent une pistache, ils vont l'acheter ailleurs, mais c'est. Voilà, c'est trop compliqué. Et. C'est comme ça. Et j'aime pas faire ce que j'aime pas, en fait. Donc, j'aime pas manger, donc je fais pas.
Ouais, vous ne faites que ce que vous êtes susceptible de manger, en gros, c'est ça?
C'est un peu mon défaut, ouais. C'est que quand j'aime pas un truc, j'ai du mal à le faire.
Alors, il y a une mode en ce moment, c'est de marier les galettes des rois avec du cidre. Il y a plein de producteurs de cidre en ce moment qui font des partenariats avec des boulangers.
Ouais, il y a une pub qui tourne depuis quelques années. Ouais.
Ouais.
On cite pas le nom, mais c'est vrai.
Alors est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est.
C'est pas nouveau, hein. Ça fait.
Est-ce que c'est un mariage forcé ou c'est un mariage de raison, la galette et le cidre?
Alors, je pense que c'est aussi parce que c'est moins cher que le champagne.
Ouais.
Et ça va pas mal avec la galette. Moi, perso, je suis pas fan. On en vend, hein. Mais ouais, moi perso je préfère un champagne.
C'est moins cher que le champagne et c'est meilleur que le champomis.
Ouais, mais enfin, comme vous disiez tout à l'heure, je prends ma voiture, je prends le métro pour acheter une super galette. Ouais, ok, moi je bois un petit champagne avec, je préfère. Après, le cidre, ça va super bien avec la galette.
Très bon cidre, des cidres, des poirées.
Oui, moi je suis normand. Hein.
J'ai passé mon enfance
à quatre pattes dans les champs de pommes pour faire du cidre, du calva. Je préfère le calva d'ailleurs.
D'accord.
Si, limite, je préfère un petit verre de calva après la galette, ça va passer tout seul.
D'ailleurs, il y a des pâtissiers qui mettent un petit peu d'alcool dans la frangipane.
C'est obligatoire.
D'accord.
Obligatoirement. Après, certains n'en mettront pas pour des questions de religion, mais la galette traditionnelle, c'est le rhum. En fait, c'est pas pour le côté du rhum, en fait, c'est que le rhum, c'est un exhausteur de goût et ça amplifie le goût de l'amande.
Ah ouais, mais parfois, on sent trop le rhum.
Ouais, c'est un équilibre. C'est comme je vous disais, la crème pâtissière. Si tu mets trop de rhum, c'est pas bon. Si t'en mets pas, c'est. Alors, certains mettent de l'amande amère. Moi, j'ai horreur de ça. Mais le rhum bien dosé, ça se sent pas. Et en fait, ton amande, ça fait ressortir le goût de l'amande. C'est pas pour mettre du rhum. Hein. Mais une galette,
c'est un exhausteur, quoi.
Voilà, c'est comme en cuisine.
Comme le beurre.
Voilà.
Comme le beurre, le gras et le goût, comme on dit.
Voilà.
Alors, comment est-ce qu'on sait qu'une. Parce que tout est là, hein. Il y a le feuilletage, mais après, il y a l'art de la cuisson de la galette.
La cuisson, ça, c'est un vrai débat. Hein,
parce que c'est la cata, parce que parfois, on a la frangipane, elle est encore crue. Enfin, pas crue, mais on sent qu'elle n'est pas suffisamment cuite.
Moi, j'en ai goûté quelques-unes cette année qu'on m'a ramené. C'est catastrophique. Tu vois, la galette, déjà, rien qu'à la voir, tu te dis, oh là, le feuilletage, il est super épais, il n'est pas développé. Et il manque 20 minutes de cuisson à chaque fois.
C'est quoi une galette bien cuite alors, en fait?
Une galette bien cuite, c'est quand tu la coupes. Je vous en ai amené une, vous la couperez si vous avez envie. Ouais.
Et vous nous avez amené aussi une couronne. On va parler de la couronne des rois aussi. Après.
Mais en fait, le feuilletage, à aucun moment, tu dois avoir un morceau de feuilletage cru. C'est juste pas mangeable pour moi. En fait, si vous voulez avoir une galette fondante, comme je vous disais comme tout à l'heure, la particularité de la nôtre, c'est qu'elle vous fond dans la bouche. Et pour qu'elle vous fonde dans la bouche, il faut que le feuilletage il soit super bien cuit jusqu'à cœur.
Et si le feuilletage cru, c'est pas très bon.
Ouais. Et en gros, si ton four il est trop chaud,
ça brûle. Ouais,
j'ai mon fils qui bosse un petit peu ailleurs et qui m'a ramené une galette. Le feuilletage il était cru au milieu. En fait, il faut vraiment la cuire à la bonne température. Chez nous, on a trois fours différents.
Vous voulez dire que votre fils, il fait de la boulange, mais pas chez vous?
Ouais, il est vendeur parce qu'il est étudiant et il a besoin de sous. Et m'écoute, là, il est en Espagne, à Madrid. Par contre, il n'y a pas grand-chose en galette. Mais pour revenir à la cuisson, c'est...
Donc, trois fours.
Nous, on a trois fours à la maison. On a le four boulanger, on a un four pâtissier, on a des fours ventilés. J'ai pas un four à la même température. Il faut vraiment. Et une galette comme celle-là, là, c'est 8 personnes, c'est pas moins de 50 minutes.
Ah oui, quand même, parce que c'est vrai, quand on regarde les recettes de galettes sur Internet, tout ça, etc., et ça m'a choqué d'ailleurs. Ils disent 20-30 minutes à 200
degrés. C'est pas possible.
C'est parce que quand on le fait à la maison, on fait ça avec des pâtes feuilletées industrielles du commerce, quoi.
Ouais,
mais avec une pâte feuilletée maison, ça peut pas cuire moins de 40 minutes ou 50 minutes, quoi.
Il y en a pour aller plus vite, on met le four un peu plus chaud. Alors la galette, elle paraît cuite, hein, mais le feuilletage au milieu, il n'est pas cuit, c'est pas possible. Nous, là, celle-là, c'est 50 minutes. Et après, il faut régler tes fours. Hein,
c'est important, parce que là aussi, c'est la base. Hein,
c'est un art. C'est pour ça que le concours, c'est pas insignifiant, le concours de la meilleure galette.
Tu peux faire tout ce que tu veux. Hein, un super feuilletage, une bonne pâte, le meilleur beurre du marché. Si ton mec au four, il te chie tes galettes, il y a deux étapes. Hein, c'est le tourier. Si le feuilletage est loupé, c'est pas la peine. Par contre, la dernière étape, et là où c'est vraiment un poste clé en boulangerie artisanale, c'est le fournier. Si le mec au four respecte pas les temps de cuisson, les températures, tu peux faire tout ce que tu veux avant, il t'a baisé 3 jours de travail. C'est la dernière étape.
C'est là qu'on voit que c'est une vraie brigade comme en cuisine. Hein, parce qu'on a parlé du tourrier, là on parle du fournier.
Ouais, il y a les pâtissiers qui vont faire.
Je connaissais même pas l'expression le fournier. Ouais. Le fournier.
Dans toutes les grandes maisons, t'as le mec qui au four, il fait que ça. T'as un fournier, quoi.
Et après, un petit coup de sirop.
C'est celui qui a bonne mine.
Ouais. faut pas qu'il ait les deux pieds dans le même sabot.
Et après, un petit coup de sirop à la fin, quand elle sort du four.
Ouais, alors c'est un côté esthétique, mais pas que.
Côté brillant, quoi.
C'est un côté brillant, mais pas que, en fait.
Mais est-ce qu'on met de l'œuf on met de l'œuf pour qu'elle.
On met de l'œuf avant la mise
avant
au four.
Cuisson, ouais.
Avant la mise
mais
au four.
Mais on remet un peu de sirop derrière.
Le sirop, c'est à la sortie du four.
D'accord.
Ouais. Et alors, les anciens, ils faisaient pas comme nous. Le sirop, c'est un peu des temps modernes. Les anciens, ils passaient un petit coup de sucre glace.
Sucre glace, oui.
Ils remettaient la galette au four.
Ça, ouais. Ah, alors ça par contre, j'ai pas connu le fait de la remettre au four.
Bah si, parce qu'en fait, le truc, c'était de sucrer légèrement ta galette.
Parce que quand elle est super chaude, on met du sucre glace. Voilà. Le glace, ils font tout de suite.
Non, c'est rare. Et en fait, le truc, c'est de mettre du sucre glace, d'avoir un four un peu plus chaud qu'on laisse pour ça. Donc, il faut avoir un étage d'un four presque qui sert qu'à ça. Et le fournier, il faut vraiment qu'il fasse gaffe, parce que là, tu la remets dans un four chaud et juste pour faire fondre le sucre.
Ouais, sinon,
30 secondes de trop, elle est cramée. Ouais. Et donc, la méthode la plus rapide, c'est un petit sirop dans lequel on remet un petit peu de rhum, non ?
Au pinceau.
Ouais, au pinceau. Et du coup, ça te remet un petit peu d'arôme sur la galette.
Oh, les galettes !
Et nous, on adore, c'est que quand tu la sors du four, quand tu passes le sirop, là, t'as l'odeur, c'est...
On peut mettre sans rhum, quand même.
De toute façon, il n'y a plus de rhum, tout s'évapore. La galette, elle est à 180 degrés, donc c'est juste, ça laisse un petit parfum, quoi.
On parle de la galette des rois. On va parler aussi, parce que pour tous ceux qui nous écoutent dans le sud de la France, alors qu'est-ce que c'est que la galette frangipane?
Il y a la couronne.
On en parlera dans un instant de stud, de table, jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bon, on aimerait vous avoir avec nous aujourd'hui, puisque tout à l'heure on va déguster cette... Alors il y a deux galettes.
Alors il y a deux, on a les deux.
Il y a la frangipane, il y a la classique, la tradie.
La galette des rois.
Et puis il y a la couronne.
La couronne.
Au fruit confit. Alors moi j'avoue, le fruit confit, c'est ou gros sucre ou fruit confit. Je suis pas très fruit confit, moi, sur la couronne. Ouais. Ça vient d'où les fruits confits?
C'est du sud. Ouais, c'est Provence. Ouais, c'est clairement, ouais.
Alors la couronne traditionnelle, les fruits confits sont dans la couronne.
Ça dépend des régions. Ouais. Dans le sud, oui. Ils en mettent dedans et dessus, hein, il me semble. D'accord. Je ne suis pas un grand spécialiste. Nous, chez nous, moi, je suis originaire de la Mayenne. C'est à peu près 50-50. Et moi, quand j'étais gamin, quand on mangeait la galette, c'était très peu frangipane. Et quand c'était de la brioche, c'était une brioche classique.
Oui.
Il
n'y
avait rien dessus.
Oui.
Un peu de sucre, des fois, même
oui,
pas
le
tout
gros
le temps.
Sucre, le
même
voilà.
Pas forcément. Ouais. Et en fait, c'était une bonne brioche. Et, moi, les fruits confus, je ne suis pas fan. Alors c'est joli, donc chez nous on en met, on pétrit la brioche, par contre on se fait une bonne brioche, cette année on la pétrit, en fait on ne met pas des œufs, on met de la crème anglaise.
Ouais, mais ce qu'il faut savoir, ouais, c'est qu'aujourd'hui la galette c'est un ogni, hein, c'est un objet gourmand non identifié, mais à la base c'était un truc super simple, c'est-à-dire qu'il fallait juste que ce soit rond et doré, parce que ça symbolisait le soleil.
Mais la galette à la base, il n'y a même pas de frangipane dedans. Là, aujourd'hui, on a sur un débat crème d'amande frangipane. La galette, à la base, c'est la galette sèche.
C'est que du feuilletage.
C'est du feuilletage. Et la galette sèche que faisaient les anciens, elle n'était pas mauvaise. Hein. Moi, j'ai appris la galette sèche avec un ouvrier que j'avais à Miromesnil, qui avait 35 ans de métier. Franchement, moi, j'en mangeais jamais. Hein. La galette sèche, pour moi, c'était un étouffe chrétien et ça servait à rien. Mais faites comme François la faisait, eh ben, le lendemain rassis, je la mange avec un café, je me régale. Donc on en fait quelques-unes, mais ça reste une petite vente. Mais la galette, à l'origine, il n'y a pas de crème d'amande dedans. Les gens mettaient de la confiture ou ils la mangeaient avec un café.
C'est arrivé après.
Ouais, je suis pas historien, me demandez pas dans quelles années.
C'est arrivé en quelle année, la frangipane?
À la frangipane, c'est arrivé, je pense, au début du XXe siècle. Mais effectivement, à la base... D'ailleurs, il y a beaucoup d'idées reçues, hein, sur la galette des rois. Tout le monde pense que c'est une fête catholique, alors que la galette, pas du tout. C'est une fête païenne, complètement païenne. La chandeleur, en revanche, a des origines catholiques, mais pas que. Donc, c'est aussi un peu païen. Mais la galette des rois, ça vient d'une fête romaine qu'on appelait les Saturnales. Et c'était par rapport justement au soleil. Hein, c'est quand le soleil revient un peu à son zénith et que les journées se rallongent. Hein, ce qui est un peu le cas en ce moment. Parce que bon, là, novembre, décembre, il faisait nuit un peu tôt.
Ouais, et nous, on a un avantage, c'est qu'on est au moins un et qu'il peut se passer une journée, on sait pas s'il a fait
jour.
Oui,
c'est ça, voilà. Et en fait, on fête le fait qu'on va pouvoir de nouveau planter, récolter, etc. C'est ça, les Saturnales. Et c'est pour ça que les galettes sont rondes, c'est parce qu'elles représentent le soleil, Philippe.
Voilà. Bon, on ne saura pas quand ça a démarré la frangipane, mais on est sur les Saturnales, on est bien.
Voilà. Et pendant les Saturnales, pourquoi est-ce qu'on donne une couronne à votre avis? Alors, c'est parce que chez les Romains, on faisait une espèce de galette. Alors là où il n'y avait pas de frangipane, je ne sais même pas si c'était de la pâte feuilletée, et on cachait une fève, mais une vraie fève dedans. Hein. Je parle du légume. Hein. On cachait une fève dedans. Et et c'était uniquement les servants hein, et les employés de la maison qui mangeaient la galette, et celui qui trouvait la fève pendant une journée, il avait le droit de se faire servir par tous les autres servants de la maison et par le patron.
Ok.
C'était le roi pendant une journée.
Journée de roi.
Voilà.
C'est quoi la bonne température pour apprécier une galette des rois, Stéphane?
Pas trop chaud. Trop chaud, j'aime pas.
Ouais. Vous êtes pour le réchauffage ou pas?
Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez la manger un peu tiède, nous, on n'est pas bon. Moi, j'en mange tous les jours, mais je la mange quand elle a refroidi.
Oui, pas quand elle est réchauffée.
Je la mange, mais ça, vous pouvez pas le faire. Hein, ou alors, il faut vraiment. Après, j'en réchauffe à la maison. Hein, quand j'ai des invités, j'en réchauffe. Vous chauffez votre four à 160, 180, vous éteignez le four. Comme déjà, ça vous évite de la cramer quand tu disputes avec ton copain, avec tes potes. Et on la laisse 7-8 minutes, un peu chaude, et on la laisse refroidir.
On a tous des souvenirs de galettes des rois chez des amis ou dans la famille, où la galette, elle est repartie pendant 15 minutes au four. Ouais. Et là, il y a tout le beurre qui ressort.
Ouais, c'est pas bon.
Ouais, c'est dégueulasse.
En fait, faut pas la chauffer, faut juste redonner un peu le fondant au feuilletage. Voilà, c'est tout. C'est l'histoire de. Donc, faut pas qu'elle soit trop chaude. La frangipane chaude, c'est pas bon. Et en fait, voilà, froid que ce soit. Froid, c'est pas bon. La bonne température, c'est quand le feuilletage est fondant. Alors après, si le feuilletage il est pas cuit, chaude pas chaude, c'est pas bon. Hein.
Oui, voilà. Si
t'as un feuilletage que la cuisson est bien amenée à bout, quand tu la manges à la bonne température, c'est un kiff. Même moi, avec 30 ans de métier, je prends un kiff quand j'en mange une.
Et est-ce qu'il y a un secret pour ce que vous appelez, vous, le rayage, donc les motifs sur le dessus? Il y a un sens à respecter?
Alors, c'est marrant, parce que ce matin, j'avais mon petit boulanger, Mehdi, qui me fait, monsieur Lovin, faut absolument que vous m'appreniez à la rayer. Parce qu'en fait, quand il raye une galette et quand moi je la raye, elle cuit pas pareil.
Ouais, c'est ce qu'on appelle une signature, hein. C'est comme pour le pain, on scarifie le pain.
Alors, Mehdi, j'arrive dans une heure, tu peux t'entraîner sans n'importe quoi.
Voilà. Le patron est pas là, donc Mehdi, profites-en. Ouais.
C'est Mehdi qui fait des chaussons aux pommes ou pas?
Non, Mehdi, il me regarde.
Alors là, c'est le patron qui a parlé. Hein. Je sais pas si vous avez vu Philippe.
Ouais, chef.
Les chaussons aux pommes, c'est un peu tout le monde. C'est un boulot de pâtissier.
Mais le rayage, c'est important pour la cuisson. C'est ça.
Pour revenir à la galette, en fait, vous prenez les deux mêmes galettes. Vous avez deux mecs qui vont la rayer différemment. Si elle est mal raillée, elle ne cuit pas pareil.
Ouais, elle pousse pas. Enfin, elle pousse.
Alors, ce qu'il faut, c'est arriver à couper le feuilletage. Parce qu'en fait, quand c'est un petit jeune, il n'ose pas trop y aller.
Sans le transpercer, quoi.
Sans la percer. Mais il faut quand même couper le feuilletage. Vous voyez, celle-là, elle a bien développé.
Il faut pénétrer, quoi.
Vous voyez, à chaque coup de couteau, le feuilletage, il est bien ouvert. Et du coup, le gaz s'échappe.
Ah ouais. D'accord. Les
vapeurs à la cuisson vont s'échapper par là.
C'est comme le pain, si on ne le scarifie pas bien, il ne va pas pousser. Quoi.
Et en gros, ta galette, si tu ne fais pas assez le coup de couteau, eh ben, ta dorure est cuite, les gaz ne s'échappent pas, ça n'a rien à voir.
Manu, c'est Dry January.
Eh ouais, alors ça, je comprends pas. Hein. Il y a des gens qui, au mois de janvier, disent on ne boit pas d'alcool. Alors,
Pendant tout un mois.
J'ai envie de dire, soit on boit de l'alcool, soit on n'en boit pas, mais ne pas en boire au mois de janvier, je vois pas trop l'intérêt. Mais du coup, ça a donné l'idée à une marque australienne qui s'appelle, LYRE'S, on va dire Liars. Comment vous diriez, vous qui êtes...
Ah, moi, je le dirais pas.
Vous qui avez un bon TOEFL,
Non, parce qu'en plus, les Australiens, ils ont un accent.
Liars, c'est une marque australienne de spiritueux sans alcool.
Donc, c'est pas des spiritueux, si c'est sans alcool.
C'est un spiritueux sans alcool, d'accord, Philippe.
Okay.
Écoutez, moi, je lis ce qu'on me donne. Hein.
C'est un calva sans pomme.
Voilà, c'est ça. Ouais. La marque qui est la plus primée internationalement. Et du coup, ils ouvrent un... Ils ont ouvert un bar éphémère du 17 au 22 janvier, donc ça commence lundi, donc à Paris. Et puis c'est chez Drinks & Co. Donc vous regardez sur internet Drinks & Co. À Marseille, vous allez pouvoir trouver ça dans un bar clandestin qui s'appelle Carrie Nation. Et puis à Bordeaux, au Symbiose. Hein. Vous en avez aussi à Lille, à Dijon, chez Monsieur Moutarde, à Strasbourg, à Lyon, à Nantes. Voilà. Donc les spiritueux sans alcool, Hein, si vous voulez faire le dry January, si vous voulez continuer à boire des cocktails mais pas boire d'alcool, vous pouvez aller dans ces bars partenaires. Vous allez sur gueuledejoie.com et non pas gueule de bois, ne vous trompez pas, et vous aurez toutes les adresses. Voilà, et ça s'appelle Liars, le fabricant.
Vous avez réveillé Maître Boily. Et si vous voulez manger une des meilleures galettes de Paris, c'est chez Stéphane Nouvard, Manu, que vous allez.
Une des meilleures, vous faites bien de le dire, parce qu'on ne se prend pas pour les meilleures.
Non, j'ai dit une des meilleures, j'ai pas.
Non, mais c'est pour ça que je vous relève, en fait. C'est vraiment. À Paris, il y en a des très bonnes.
Enfin, quatrième d'Île-de-France, c'est quand même. Voilà. C'est comme si vous étiez le meilleur. Hein.
Donc pour moi, c'est voilà. On la vend comme je l'aime.
11 rue de Châteaudun, Paris 9e. Et puis, si vous passez à l'heure du déjeuner ou du dîner, profitez-en pour manger un peu de bistronomie à la Maison Louvard, hein, puisque vous avez. Comme vous n'aviez pas assez de boulot en tant que boulanger, vous êtes dit, oh bah si on ouvrait un restaurant. Voilà. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes un peu maso, mais bon, en tous les cas, nous, ça nous fait plaisir. Pour nous, c'est parfait.
Bon, Stéphane Nouvard, en tout cas, moi, j'aime beaucoup la façon dont vous parlez de votre métier, de votre art et de ce que vous aimez. Et j'espère que les auditeurs ont pris autant de plaisir à vous écouter que nous, on a pris de plaisir à vous interroger et à passer ce moment avec vous.
Vit.
Voilà. Bon, mais ça sent. La passion.
Ça sent, vous transmettez bien votre passion.
Disons que quand je me lève le matin, même si je sais que j'en ai pour jusqu'à 20h, voilà.
Vous aimez votre journée?
Carrément.
Ouais. Stéphane Louvard sur Beurre FM, c'est la première fois qu'on l'invite. Manu, on vous retrouve la semaine prochaine.
Absolument.
Et passez un très bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.